Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage confinée, cette émission pas du tout pompée sur celle de TF1 où des types en compétition et coupés du monde finissent par péter les plombs parce qu'ils peuvent plus se blairer après un mois confinés ensemble.
Le temps tourne à l'orage. Les nerfs des rouges comme des jaunes sont mis à rude épreuve.
Il n'y a pas de fatigue qui soit.
Oui, plus ça va et plus l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, ressemble à Koh-Lanta. Heureusement, elle a un collier d'immunité. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes en compétition.
Mais oui, c'est formidable.
Alors Eva, durant ce confinement, vous êtes notre boussole audiovisuelle. Chaque jour, vos conseils aident les couples et les familles entières à ne pas sombrer dans la dépression ou l'homicide.
Exactement.
Est-ce que vous avez de bonnes choses à nous proposer aujourd'hui?
Oui, on va parler beaucoup d'art avec les enfants et les ados. Et puis on va beaucoup pleurer avec les grands, vous allez voir. Beaucoup d'émotions.
Hâte de connaître votre sélection du jour. Mais Eva, vous le savez, depuis le début du confinement, notre petit plaisir, c'est d'être chaque jour au téléphone avec une personnalité qu'on aime. Aujourd'hui, vous, mon intro, vous avez deviné certainement, oui, il présente depuis bientôt 20 ans Koh-Lanta, chaque vendredi soir sur TF1, cette émission qui n'a aucun secret pour moi, comme il avait pu le constater la dernière fois. 20 ans donc qu'il prend un plaisir sadique à proposer à des types affamés toutes sortes de jeux pervers, poteaux, roulades, ingestion de larves gluantes.
J'ai adoré l'épreuve, c'est la première fois qu'on en parle, l'épreuve de la roulade.
De la roulade.
Non, mais c'est une bonne idée. Je vais en parler à mon producteur. Si on se fait chier à construire des trucs, celui qui va au bout en faisant le plus de roulades a gagné.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Mathieu. Salut Eva. J'espère que vous avez révisé depuis la dernière fois.
Oh là là, mon inculture colantesque est terrible.
Il fait des roulades chez lui pour s'entraîner parce qu'il pense que ça va le motiver.
Et je fais des roulades. Koh-Lanta, l'émission mythique de TF1. Il y a peu d'émissions qui durent sur 20 ans avec des audiences comme vous faites. Alors même si le programme n'avait pas besoin de ça pour marcher, est-ce que vous sentez en plus un effet confinement parce que les gens ont besoin de s'évader particulièrement en ce moment?
Oh ben c'est clair, on fait des audiences absolument extraordinaires hein, puisque on était quasiment à 7 millions de téléspectateurs sans le replay la semaine dernière et que ça fait deux semaines qu'avec le replay on a dépassé les 7 millions de téléspectateurs. Je pense qu'effectivement le confinement ça donne envie aux gens de voyager par procuration encore un peu plus quand vous êtes confiné dans votre appartement ou dans votre maison. Un petit voyage comme ça aux Fidji, l'espace d'une soirée, c'est toujours un grand moment de bonheur. Mais je voudrais rajouter aussi que ça tombe bien parce que je crois que cette île des héros, cette saison-là, à ce que j'en lis sur les réseaux sociaux notamment, c'est quelque chose qui fédère un maximum de gens. Et puis encore une fois, qui permet de s'évader, et en ce moment, s'évader, c'est rare.
On est bien d'accord.
C'est vrai que cette saison, c'est un grand cru. On va en parler. Denis, vous allez aussi nous raconter votre confinement. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers journalistes en compétition. L'occasion d'ailleurs de constater que parmi les journalistes d'Europe 1, certains sont mieux lotis que d'autres en ce moment, comme par exemple les fieffés vénards qui sont correspondants en région, qui peuvent donc se dorer la nouille dans de luxuriants jardins, pendant que nous, on étouffe dans de minuscules appartements à Paris. Ceci étant dit, bonjour Stéphane Plath.
Ah, c'est de moi dont vous parliez. J'avais pas
compris. C'est de vous dont je parle, oui. Stéphane,
bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Eva.
Bonjour oui, Stéphane.
Figurez-vous Stéphane que je n'ai toujours pas digéré cette petite phrase que vous aviez lâchée la dernière fois hors antenne quand on se disait au revoir après l'émission.
Merci.
Bisous tout le monde, week-end, au revoir.
Ouais, j'ai un barbecue à préparer moi les gars.
Et voilà.
Alors visiblement Stéphane, vous êtes toujours à la fraîche puisque cet après-midi vous nous proposez de jouer au molki. Vous remuez le couteau dans la plaie quoi.
Ouais, forcément, comme on a plus d'espace, nous on a un rapport différent à l'extérieur.
Bien sûr.
Oui, je vous propose de parler de molki. Ce jeu de quilles finlandaise dont on est en général très fan l'été venu avec les amis, la famille, quand on est tous réunis, quand il y a
à
de grandes tablées.
Tout ça, voilà. Ouais.
Exactement le genre de choses totalement impossible pendant une période de confinement. Bah, précisément, des passionnés de molki, et l'un d'eux vit sur le bassin d'Arcachon à la Teste de Buch, ont trouvé une solution. C'est ça que je vais vous raconter. On arrive à organiser des tournois de molki malgré la distanciation sociale. Bah oui.
Le molki qui est aussi, rappelons-le, pour les aficionados, une épreuve éliminatoire dans Koh-Lanta,
mais
juste
non,
après celle
Mathieu.
De la roulade, évidemment. Votre rival, Stéphane, n'a pas la chance, elle, de s'ébrouer dans la nature. C'est une citadine qui justement commence à ressentir le manque des grands espaces, surtout que chez nos amis les bêtes, la saison des amours a commencé. Et en tant que vétérinaire, elle partage un peu cette excitation.
Bonjour, plus de soutien-gorge, plus rien, on peut y aller. Hein,
oui, enfin. Oui, bonjour, bonjour, Farah Kasri.
Bonjour, vive la liberté.
Ah oui, ça, la liberté, elle nous manque. Vous êtes notre veto préféré, Farah. Et aujourd'hui, vous nous racontez comment le silence du confinement profite aux animaux.
Absolument, avec le prolongement du confinement, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais pour les animaux sauvages, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir qu'avec 2 milliards d'humains confinés chez eux, ben c'est le silence qui règne sur la planète. Et ça tombe bien parce que c'est la saison des amours et les mâles ont souvent besoin d'un peu de silence pour pouvoir attirer les femelles.
Ah, ça fait bon. Bien une différence avec les humains, ça, tiens.
Ah oui, ça c'est sûr.
Eva, merci, pas de témoignage personnel
pardon,
à ce stade.
Pardon,
merci
Farah.
Le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Il est l'exemple type, le cas d'école qui explique que nos audiences peinent à décoller, comme il nous l'avouait la dernière fois.
Tu sais que je ne vous écoutais jamais autant que quand j'étais au Fidji. Je me couchais et je vous écoutais, avec 12 heures de décalage horaire.
Ah, c'était pas comptabilisé dans les audiences. Bon sang, Denis, écoutez-nous voilà. Un peu en France voilà. Aussi, que ça soit comptabilisé, c'est pas possible. Denis Brognard est avec nous cet après-midi. Denis, vous êtes un globetrotteur présenté Koh-Lanta depuis bientôt 20 ans. Pour vous, le confinement, ça doit être peut-être plus dur que pour d'autres, non? Vous avez la bougeotte d'habitude.
Bah, c'est vrai que les voyages en avion, les déplacements, le décalage horaire, ça commence à me manquer. Mais vous savez, quand on est depuis 20 ans justement sur les routes ou dans les airs, ça fait du bien de se poser. Ça fait du bien, c'est ce que je disais à mes enfants pas plus tard qu'hier, de partager ses déjeuners et ses dîners à 100% ensemble sur plus d'un mois et bientôt sur 2 mois. Donc ça fait aussi du bien. Il ne faudrait pas que ça dure quand même trop longtemps. Donc le 11 mai, j'espère qu'on va pouvoir commencer à repartir et à s'envoler à nouveau, je l'espère.
Vous êtes un père au bout du rouleau là ou pas ?
Non, je ne suis pas au bout du rouleau parce que j'ai des tas de choses. Je m'occupe, je continue à travailler, je travaille sur une idée de podcast. J'ai mis les premières lignes d'un roman que je rêve d'écrire depuis un long moment. Et puis je m'occupe aussi de continuer à faire vivre Koh-Lanta en dehors de TF1 via
Instagram,
mon compte Instagram. Chaque soir avec un candidat, je me régale à retrouver des candidats des saisons passées. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, il faudrait peut-être qu'on se rappelle d'ici quelques semaines, pour l'instant, ça se passe ça va. Plutôt bien.
Denis, une petite question de nul en télé comme moi. Alors Eva va peut-être se moquer de moi parce que la question
Allez,
est peut-être
parti.
Ridicule, mais moi, quand je regarde Koh-Lanta, c'est vrai que je ne regarde pas autant qu'Eva, mais quand je regarde, je me dis les personnalités sont toujours tellement bien trouvées. Le casting, ça doit être un moment important, clé dans l'émission. Est-ce que vous, Denis Brognard, vous participez à ce casting ou vous découvrez les candidats sur l'émission ?
Alors ça dépend des années, ça dépend de mon emploi du temps avant, au moment du casting, mais c'est vrai que participer au casting final, c'est-à-dire le moment où on passe de 50, 60, 70 candidats aux 20 que nous allons sélectionner, toujours un moment intéressant parce que le casting ce sont des gens de TF1, des gens de la société de production qui défendent en fait certains candidats. Il y a des fois où on est totalement d'accord, soit pour prendre quelqu'un, soit pour ne pas le prendre, et puis parfois il y a du tiraillement, on dit mais non mais c'est bien de l'avoir, mais non moi je pense pas que ce soit bien. Et donc à l'arrivée on essaye d'avoir un panel assez représentatif avec des gens de toutes les régions, de tous les milieux socioculturels, socioprofessionnels. Et quand on regarde le panel de cette année, je trouve qu'il est plutôt pas mal avec ce savant dosage entre les héros, c'est-à-dire d'anciens candidats qui reviennent et qui ont déjà brillé, et puis les petits nouveaux qui ont envie de faire leur place et qui n'ont surtout pas envie de se laisser manger la laine sur le dos par les héros de l'aventure.
Ouais, moi, je pense qu'il faudrait peut-être prendre Eva Rock dans ces héros. À mon
mais
avis,
arrêtez.
Ça pourrait vous faire de très, très belles images et de très, très beaux moments
d'engueulade. Vous savez, Mathieu, le vrai problème avec Eva, c'est qu'on aime avoir du suspense. Et dès l'instant que vous prenez Eva, vous savez qui va gagner. Donc, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est à la fois extraordinaire dans les épreuves. C'est une survivante hors pair.
C'est vrai.
Et surtout, faites attention à vous, Mathieu.
Ah.
Elle peut vous piquer votre place.
Exact.
Ah, stratège hors norme.
Terrible. Mais ça, je le sens venir, ça fait 8 ans qu'elle essaye, ça va finir par arriver. Vous le retrouvez tous les soirs sur Instagram en live à 18h et tous les vendredis évidemment sur TF1 pour Koh-Lanta. Denis Brognard reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, si pour nous les hommes le confinement est une triste période, pour les animaux en revanche, c'est la fête du slip. d'avion, un silence royal. Ajoutez à cela qu'en plus c'est la saison des amours et vous comprendrez qu'en ce moment nos amis les bêtes ne pensent qu'à ça. Enfin, heureusement les animaux, on sait bien qu'ils le font, mais ils ne s'en vantent pas comme nous les hommes. Enfin, les hommes, sauf moi bien sûr, qui ne m'épanche jamais sur mes conquêtes féminines. Mais même à mes amis les plus proches, je trouve ça vulgaire. Bon, sauf hier soir, c'est vrai, j'ai peut-être été un poil lourd.
Elle découvre l'amour. Jusqu'alors, elle n'avait jamais connu d'homme. Bah, de vrai.
Bon, si je vous disais qu'hier, alors que je venais d'assouvir ses sens, elle, inerte, sur le lit dévasté, moi, lui racontant comment j'avais satisfait aux exigences de 8 femmes dans un boxon de Mostaganem, elle m'a regardé droit dans les yeux.
Oui, non, mais d'habitude, je suis très pudique, d'habitude. Oh là là. Les animaux, grand gagnant du confinement, c'est juste après Summer is a Curse, The Fame, sur Europe. Burnt lips when the wind blows, black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe on the double, too hot for the devil. I can't see what the future holds, but I wanna know. It's like hearts don't bleed like mine. Summer is the curse, c'était The Fame sur Europe 1. Ne bougez pas, on revient dans 25 secondes.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et surtout en ce moment de votre bonne humeur. Car en ce 31e jour de confinement, on est tous pareils, on est en manque de contact humain. Eva, manque de contact humain, même si c'est vrai, pour nos amis célibataires, ça devient aussi très dur de ce côté-là. Je vois par exemple, en effet, cette pauvre Eva, confinée en studio depuis 31 jours maintenant avec Romain Causeur, notre réalisateur, qui lui est confiné de l'autre côté de la vitre, sans possibilité donc de se toucher. C'est assez frustrant, d'autant que ce coquinou de Romain s'amuse à la faire tourner en bourrique pendant les coupures pub.
Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas en fait.
Ah oui, quand même, ouais. D'accord.
Oh,
ouais, c'est pas mal. Ouais.
Sacré Romain.
N'importe quoi.
Pour les... oh, vous faites ce que vous voulez, hein, tant que ce n'est pas filmé. Pour les animaux aussi, c'est la saison des amours. Farah Kasri, vous êtes notre vétérinaire. Et grosso modo, ce que vous nous expliquez aujourd'hui, c'est que le confinement, eh ben, c'est la fiesta pour nos amis à poil.
Absolument, les
c'est
rôles
un bon lancement, tiens.
Sont inversés. Hein. Les humains se terrent chez eux et les animaux peuvent enfin déambuler tranquillement. Il y a moins de voitures qui circulent et du coup, moins d'animaux écrasés. Et avec le calme ambiant, eh bien, il y a plusieurs espèces hein, qui se sont aventurées dans les villes, un peu partout dans le monde. On a vu des images, y compris en France. Et on a vu par exemple des daims se promener dans les rues de Boissy-Saint-Léger en région parisienne.
Ah, elle est incroyable l'image. Ouais. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux, c'est incroyable.
Et c'est une vraie image, hein, celle des dauphins oui. à Venise, c'était un fake.
Ah bon, les dauphins à Venise, c'était un fake?
Oui, c'était un fake. Ouais,
oh, bah, j'y ai cru, moi, mais ouais. moi, je me fais toujours avoir par les fake news. Bon. Alors, les poissons de la Seine ont aussi la paix, paraît-il. Et plus au sud, à Marseille, on a même vu des baleines au large des Calanques. Ça, c'est pas des fake photos, ça?
Non. Ça, c'est vraiment des images qui ont été tournées par les agents du littoral. C'était deux rorquals. Vous savez, c'est les plus gros cétacés juste après la baleine bleue. Hein. Ils mesurent à peu près 20 mètres, alors que la baleine bleue, c'est plutôt 30 mètres. Ils ont été donc filmés. Vous pouvez aussi retrouver les images sur Internet. Et il faut savoir qu'habituellement, en raison du trafic maritime, les animaux marins sont très perturbés par notre pollution sonore. Au fond de la mer, en fait, c'est aussi bruit qu'une autoroute. Or, les cétacés utilisent le son pour communiquer sur
bien
de
sûr,
grandes
oui.
distances et notamment les infrasons. Les baleines, par exemple, hein, deux baleines, par exemple, peuvent échanger des informations, faire la route ensemble alors qu'elles sont à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Je vous rappelle hein, que le son, lui, peut se propager quatre fois plus vite sous l'eau par rapport à l'air et avec les infrasons, ça va diffuser encore sur de plus grandes distances. Et malheureusement, leur système de communication est fortement brouillée par notre pollution acoustique et avec le confinement, eh bien, elles ont enfin la paix pour se retrouver et comme c'est le cas pour beaucoup d'espèces marines, eh bien, c'est la période de reproduction qui s'étale justement d'avril à septembre, donc on peut imaginer que les regroupements sont beaucoup plus faciles à réaliser.
Et on peut parler effectivement donc de fête du slip, comme disent les scientifiques. C'est aussi la période de reproduction des oiseaux en Camargue qui profitent du calme et de l'absence de touristes.
Absolument, c'est dans le parc ornithologique du Pont de Gaulle. Il y a des aigrettes, des hérons, des ibis falcinelles et près de 2500 flamants roses contre 1600 en temps
ah
normal.
Ah oui, c'est énorme.
Bah oui,
oui, d'accord,
c'est, ouais. c'est super beau à voir. Il faut voir les images qui sont postées sur les réseaux. Et les couples sont déjà formés. Et la période de ponte vient de commencer. Alors, elle s'étale d'avril à juin. Et on annonce justement pour le mois de juin un véritable baby-boom de flamants roses. Et je vous rappelle que ses parents sont monogames et ils ont un seul œuf par couple.
Ah oui, bah j'allais vous poser la question. Je ne savais pas que le flamant rose était fidèle.
C'est assez souvent chez les oiseaux. Hein. La monogamie chez les oiseaux, elle est assez fréquente. Vous avez des couples, soit c'est une femelle et un mâle, soit ce sont deux mâles qui vont couver un œuf.
Ah bon, mais deux mâles qui vont couver un œuf, comment ils ont fait pour avoir un œuf?
Ah bah ils ont pris un œuf abandonné et ils ont couvé
ah bon
un œuf.
Ah bah c'est beau.
Et ce sont de très très bons parents.
C'est très beau. Et
voilà.
Pourquoi? Alors
là,
c'est la question que mon fils se pose, donc je vais vous la poser.
Ah,
pourquoi
je sais ce que vous avez demandé.
Les flamants roses sont-ils roses, Farah?
Eh bien, tout simplement en raison de leur alimentation. Vous savez, ils mangent des petits crustacés et ces crustacés, ce sont des artémies et tout. Et ils sont riches en carotène, un peu, vous avez le pigment un peu rose-rouge qu'on retrouve aussi dans les carottes. Et c'est ça, en fait, qui permet de colorer leur plumage. Il faut savoir que les petits, ils n'ont pas des plumes roses, ils sont plutôt gris. Et c'est vraiment en grandissant qu'ils vont acquérir cette coloration. Plus ils vont manger des crustacés et plus leur plumage va être rose.
Moi, je teste la même chose avec les carottes.
Voilà. Vous allez devenir tout orange.
Vous
Exactement.
Allez avoir le teint rosé.
Et je vais être aimable en plus.
Oui, et ça vous fera du bien. Ouais, merci ouais. beaucoup, Farah Kasri, pour cette parenthèse animale, puisque pendant qu'on est confiné chez nous, les animaux, eux, se font plaisir. On l'a bien compris. Et on rappelle, hein, afin d'éviter tout nouveau débordement dans le studio entre Eva et Romain, notre réalisateur, la saison des amours, c'est uniquement pour les animaux.
Je veux la vidéo.
Non, Farah, ne les encouragez pas.
Europe 1.
Il vous offre chaque vendredi dans Koh-Lanta une bouffée d'exotisme et d'aventure quasi vitale en ces temps confinés. Bientôt 20 ans que Denis Brogniard présente Koh-Lanta. Vous êtes peut-être fan, mais connaissez-vous vraiment tout sur Denis Brogniard? Saviez-vous par exemple dans quelle discipline sportive il s'est illustré avant de devenir journaliste?
Champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Oui, non, Denis, je voulais leur faire la surprise. On va tout de suite avec l'intarissable Denis.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même en ce moment, vous écoutez l'équipe est sauvage avec en ligne avec nous cet après-midi une star de TF1 qui est plus qu'un animateur, un véritable devin, Denis Brogniard, que nous avions reçu en septembre dernier et qui à l'époque m'avait dit:
c'est le début de la saison, attention, Mathieu, prenez votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
Oh là là!
Une phrase prémonitoire, puisque me voici chez moi, effectivement, dans mon canapé, avec mon chat Miam. On est heureux, Denis, de vous avoir avec nous cet après-midi au téléphone. Koh-Lanta, c'est tous les vendredis soirs à 21h05 sur TF1. Et moi, il y a une question que je me pose, parce qu'en plus, maintenant qu'on vous connaît un petit peu avec Eva dans la vie, on sait quel homme vous êtes, quel aventurier vous êtes. À quand, et pourquoi pas pour les 20 ans, Denis Brogniard en candidat dans Koh-Lanta? Est-ce que c'est juridiquement impossible? Est-ce que c'est... Mais parce que je suis sûr que ça vous titille, c'est certainement. Vous devez vous demander ce que vous donneriez, vous, dans l'épreuve.
Mais ouais, mais maintenant, j'ai passé la date limite de consommation.
Mais non,
c'est pas
possible. Oh, vous êtes un grand sportif.
Mais non, mais oui, non, mais d'accord. Mais vous savez, c'est ce que je dis toujours. Moi, je connais qu'un seul poste où on est assuré d'être présent du 1er au 40e
jour. Ah oui, c'est
jour,
sûr.
Où normalement, on ne risque pas l'élimination. Alors, un jour, je vais être éliminé. Un jour, je serai forcément remplacé. Mais enfin, ça fait pratiquement 20 ans que ça dure. Donc, finalement, je préfère ce poste d'observation-là. Même si c'est vrai que ça me titille et que c'est incontestablement la seule émission à laquelle j'aurais pu, si je ne travaillais pas à la télévision, m'inscrire pour me tester. Beaucoup plus que Danse avec les Stars ou Voice, par exemple, vous voyez. Je me sens plus de compétences et plus d'appétence pour l'aventure et le dépassement de soi que pour la chanson et la danse.
Oui, mais encore que la danse, c'est très sportif, hein, Danse avec les Stars. Peut-être que vous auriez votre place à... Oh.
Ouais, mais là, je manque de rythme, Eva. Ou alors, il me faudrait une partenaire à votre image.
Oula, non,
oh,
surtout
ça y
pas.
Est,
non,
Eva, non. Compliment. Depuis le début de Koh-Lanta, Denis, on a l'impression, à part peut-être quelques exceptions, que les candidats sont de plus en plus préparés. Cette année, le jeune Sam, qui a à peine 20 ans, s'est entraîné comme un guerrier en reproduisant chez lui les épreuves emblématiques de l'émission. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir, au fur et à mesure des années, augmenter encore le niveau des épreuves? C'est-à-dire plus de roulades, par exemple, mais des épreuves plus dures.
Ah, c'est sûr que la roulade, tous les aventuriers en rêvent maintenant. Les gens me disent, mais Mathieu Noël nous l'a proposé, à quand la roulade? Non, plus sérieusement, des gars comme Sam, il n'y en a quand même pas 50 tous les ans. Hein. Sam, c'est un psychopathe de Koh-Lanta. Il s'est préparé de manière chirurgicale. Effectivement, il a tout essayé. Il se lève à 5h du matin pour aller courir, pour travailler l'équilibre, pour travailler tout ce qu'il faut pour briller dans Koh-Lanta. Mais c'est vrai que les candidats se préparent, mais c'est vrai aussi que vous avez beau vous préparer, quand vous prenez un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, c'est pas la même que quand vous êtes dans des conditions très sommaires et très précaires de Koh-Lanta. Donc ça change toutes les données, tous les rapports. Et puis, je suis toujours quand même fasciné parce qu'ils ont beau se préparer, quand on arrive à l'orientation vers la fin et qu'il en reste 4 ou 5, on se rend compte qu'au moins la moitié n'a jamais pris une boussole dans la main. Mm-hmm. Ce qui nous donne franchement des moments extraordinaires. Je me souviens d'une candidate un jour qui avait dit « Mais non, je te dis, le Nord c'est par là, le Nord c'est à marée basse. »
Ah oui, d'accord.
Donc, quand vous entendez quelqu'un dire ça, vous vous dites « Il y a encore un gap à franchir pour que les candidats soient au top niveau sur toutes les épreuves. »
Mais Denis, avec cette histoire de confinement, on sait quand même que les déplacements à l'étranger vont sans doute être un peu compliqués là dans les mois à venir. Est-ce que ça met en péril Koh-Lanta ou pas?
Écoutez, je ne sais pas si ça met en péril Koh-Lanta. En tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est que la prochaine saison de Koh-Lanta, hein, pas celle qui est diffusée en ce moment, mais la suivante, est déjà tournée et en boîte.
Ah,
donc,
d'accord.
Ça nous laisse quand même un laps de temps, mais j'espère du fond du cœur qu'on pourra repartir assez vite, tourner dans les contrées qui sont les nôtres, assez lointaines forcément, mais bien malin qui pourrait dire aujourd'hui quand est-ce qu'on pourra vraiment se retrouver dans les mêmes conditions que précédemment. Mais je vous dis encore une fois que les fans de Koh-Lanta se rassurent, la prochaine saison, Elle est déjà ici avec des candidats et avec encore pas mal de surprises.
Mais sinon, vous avez qu'à faire Koh-Lanta sur Noirmoutier ou l'île de Ré.
Exactement.
Ils sont contents en ce moment d'avoir du monde.
Il y a l'île aux oiseaux sur le bassin d'Arcachon, c'est parfait. Hein. Vous cadrez vers l'océan et on a l'impression que c'est une île déserte.
Hein. Bon, ce qui est génial, c'est que maintenant, je sais que je peux compter sur Mathieu et Eva comme des scouts pour nous trouver les futurs spots de Koh-Lanta.
Denis, une petite question sur le côté romantique de Koh-Lanta, puisque alors ça, moi, je l'ai découvert personnellement, qu'il y avait eu des histoires d'amour dans Koh-Lanta, et même il y a eu un bébé Koh-Lanta qui est né, entre Benoît et Yesta, si je ne m'abuse, que vous allez d'ailleurs recevoir sur Insta bientôt, peut-être même demain.
Demain soir.
Ouais, à 18h sur Instagram.
Exactement.
Ouais.
Vous savez, c'est un peu à cause de vous, Mathieu, parce que vous avez décidé d'organiser cette épreuve de la roulade. Donc Benoît et Yesta étaient réunis en binôme pour cette roulade, et puis la roulade s'est poursuivie sur le camp. Non, plus sérieusement. Ce qui est drôle, c'est que Benoît et Yesta, ils étaient finalistes de leur saison.
Et oui.
Et sur le moment, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de vrai rapprochement. Et puis petit à petit, ensuite, eh bien, ils se sont rapprochés, ils se sont mariés et ils sont devenus effectivement les heureux parents d'un petit Julian. Et aujourd'hui, ils vivent dans la région toulousaine, ils sont influenceurs tous les deux. Et ils font partie des gens qui ont marqué cette aventure, et notamment Benoît, parce que Benoît, il ne faut pas l'oublier, il a gagné
oui.
Denis, une question d'actu maintenant, pour finir sur le confinement.
Pourquoi
sur l'épreuve
qu'on
vit. Pourquoi
avec une toute petite voix d'un seul coup
parce que je passe en mode journaliste, je passe en mode Prix Albert Londres, alors attention, mettez-moi une musique qui convient. sur l'actualité que nous vivons tous, Denis Brognard, vous avez une nièce, Noémie, qui est jeune infirmière à Lyon, vous avez posté une photo d'elle récemment sur les réseaux sociaux. Ce matin, sur les réseaux sociaux, Patrick Peloux, président des médecins urgentistes de France, s'insurger, le poing levé contre les annonces du gouvernement, notamment la prime de 1500 euros pour les personnels soignants des régions les plus touchées par l'épidémie. Il écrit « 1500 euros de prime, c'est méchant en fait. Il faut une augmentation de 300 euros pour tous les personnels hospitaliers et rouvrir les lits de réanimation définitivement. Point barre. Sachez que le monde d'après va être comme le monde d'avant. » Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Patrick Peloux ?
Alors, je pense qu'il est important, en tout cas, d'exprimer notre gratitude envers tout le personnel médical, pas uniquement les infirmières, mais les aides-soignantes, les médecins, les laborantins, etc., etc., ponctuellement, évidemment, pour vraiment leur dire merci et bravo pour ce que vous avez fait, parfois 7 jours sur 7, parfois dans des conditions difficiles. Vous parliez de ma nièce, elle a attrapé le coronavirus, elle a été arrêtée quelques jours, puis elle est repartie travailler comme si de rien n'était. Donc évidemment, la prime, c'est nécessaire. Moi, je suis très favorable à cette prime. Puis ensuite, il faut une refonte beaucoup plus grande du système médical français. Évidemment, je suis d'accord avec Patrick Peloux, il faut qu'on ait beaucoup plus, comme en Allemagne, de chambres de réanimation. Évidemment, il faut améliorer le quotidien des personnels médicaux. Et j'espère que les conditions des personnels de santé évolueront et permettront donc à l'hôpital en France d'être encore de meilleure qualité.
Merci Denis Brognard pour ce témoignage et merci surtout de nous divertir comme vous le faites chaque vendredi soir sur TF1 à 21h05 pour Koh-Lanta, 19e saison, et aussi sur Instagram à 18h. Vous recevez les anciens candidats qui ont fait la légende de cette émission mythique de TF1. Merci beaucoup Denis Brognard d'avoir été avec nous cet après-midi en ligne.
Merci Mathieu, merci Eva, je vous embrasse
Denis.
De loin, et ce soir c'est Martin qui sera avec nous, qui a été finaliste de Koh-Lanta il y a quelques saisons.
Alors rendez-vous sur Instagram. Merci
Martin,
Denis.
Le roi de la roulade, je m'en souviens. Merci beaucoup Denis.
Salut.
Europe 1.
31e jour de confinement, 31e fournée de Monster Munch à l'apéro. Si on échappe au Covid, en revanche, on n'échappera pas à la cellulite et aux poignées d'amour. D'où l'importance de maintenir une activité physique, si possible ludique. Alors Eva en connaît plusieurs. La brouette togolaise, le chapon farci du Vercors ou encore la redoutable toupie du...
vous n'arrivez même pas à le dire tellement c'est idiot votre truc.
Ou encore la redoutable toupie du Caucase.
Je l'ai fait samedi matin, je peux plus marcher.
Oh là là, voyez.
Mais
vous étiez punis.
Sans aller jusque-là, connaissez-vous le Molky Eva, un jeu à la mode moins fatigant et plus familial que la toupie du Caucase, qui est en train de devenir un des phénomènes du confinement. On en parle juste après Thomas Dutronc. On ne sait plus s'ennuyer sur Europe 1.
Même à 20 bornes de bandole, c'est la déprime sans parabole. À la campagne, t'entends des cloches, ça fait tout drôle sans Macintosh. En plein centre-ville, danger, y a du danger sans la 3G. On ne sait plus s'ennuyer. sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. Il s'est retiré dans le Berry en oubliant son Blackberry. Elle prend des cours de cha-cha-cha avec sa souris riri-ri. Ce soir c'est moi qui sors chérie, comme ça je promène un peu l'ordi. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Que serions-nous sans connexion, à part des gens pleins de questions. On vit maintenant tous sans réseau, comme des animaux dans un zoo. On est tout mou sans disque dur, on est tout nu dans la nature. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. T'entends plus les oiseaux chanter, c'est pas compatible USB. Avant la vie était basique, avant la vie était physique. Dans le fond d'écran t'as un soleil, mais c'est pas tout à fait pareil. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer.
On ne sait plus s'ennuyer, c'était Thomas Dutronc sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Dans cette grande compétition qu'est l'équipée sauvage, certains journalistes, un peu trop vantards ou un peu trop sadiques, partent avec un handicap. C'est clairement le cas de Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest, qui, pendant que ses collègues sont confinés dans de petits appartements sur cour, enchaîne, lui, les barbecues dans son fastueux domaine bordelais, qui plus est, en se foutant de notre gueule.
Le frétillement d'une entrecôte basadaise sur mon barbecue, le foie gras périgourdin de Bergerac, par exemple. Je dis pas ça parce que Romain, le réalisateur, est originaire de la région et qu'il va voter tout à l'heure, Romain.
Moins 2 points d'emblée donc pour Stéphane Place. Stéphane, évidemment, vu votre quotidien actuellement, vous n'allez pas nous parler géostratégie ou macroéconomie, mais plutôt d'un autre truc en i plus cool, le Molki.
Exactement, le Molki. On y a tous cédé à la tentation de la partie de Molki durant l'été. C'est vrai que c'est assez amusant. Vous savez, ce sont ces quilles numérotées de 1 à 12, et puis on envoie le morceau de bois, le Molki. Et évidemment, cela permet d'avoir des scores et d'avoir un vainqueur. C'est assez, voire même très très convivial, très sympa.
Ah oui.
Problème, c'est qu'avec le confinement, jouer à plusieurs, se retrouver, ça pose une difficulté. Et donc, des passionnés ont trouvé une solution. L'un d'eux, Cyril Léger, appartient au Tchanké Molki Club. C'est sur le bassin d'Arcachon. Lui, il est originaire de La Teste de Buch. Ils se sont dit, bon, mais comment on fait alors pour disputer un tournoi? Parce que c'est quand même très sympa, très marrant. Et évidemment, ils ont eu recours à la visio, à Internet, avec des connexions vidéo. Ils se sont réunis à 10. Et ils ont réalisé un premier tournoi. Alors évidemment aussi, quand on joue un jeu comme celui-ci, il faut que chacun ait la même disposition de quille face à lui quand vient son tour. Eh bien Cyril Léger, il va vous expliquer comment ça marche.
On est tous sur un site de visioconférence et donc l'adversaire voit le jeu sur lequel on joue. Donc par exemple, moi je démarre, je joue, je casse, les quilles s'éparpillent et je dis à mon interlocuteur et aux spectateurs qui sont là où sont placées les quilles et lui, chez lui, il place les quilles exactement au même endroit et ensuite c'est à lui de jouer. On utilise des décamètres, des décimètres, etc. pour essayer de placer les quilles du mieux possible. Alors on n'est pas au millimètre près, mais avec une petite vision du téléphone plus des molki plus le décamètre, on arrive à avoir quelque chose, je pense, d'assez précis. On a quand même une grande confiance les uns envers les autres, donc normalement ça doit bien se passer. Sur le premier tournoi, on était une dizaine, de Bordeaux jusqu'en Bretagne et jusqu'à Metz, donc c'était quand même pas mal réparti. Et là, sur ce deuxième tournoi, on a un joueur belge et un joueur australien.
Vous rendez compte, mais ça devient international.
Mais ça doit prendre des heures à chaque fois à remettre les quilles comme il faut et tout, non?
Alors, il faut être un peu patient. Ouais. Il faut écouter les consignes de celui qui vient de jouer en disant « Attention, la quille 5, elle est à 25 cm du bord. » Oui, ça, forcément. Mais quand on est passionné, on prend son temps. Après, vous l'aurez remarqué quand même, c'est un peu comme dans cette émission, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. On a tous, ils ont tous en l'occurrence de quoi mesurer, un double décimètre, etc. Bon, ils jouent entre eux, donc a priori, il n'y a pas de mauvais état d'esprit du tout, hein, mais quand même, on ne sait jamais, on fait gaffe, on mesure. Moi, je trouve que l'initiative est topissime parce que franchement, il y a un côté très enfantin, finalement, c'est le jeu, mais on en a énormément besoin dans cette période, hein, de s'amuser, de se marrer, et cette notion aussi d'être avec les autres, même à distance.
Mais pardon Stéphane, mais pour ceux qui sont en appartement, par exemple,
Vous allez disposer vos quilles de Molki dans le couloir. Oh hein,
voilà. Oui, d'accord, mais les voisins, ils vont être contents quand même. Hein.
Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce problème-là.
Ah bah oui,
on pourrait faire pareil. Alors moi, j'ai une très bonne idée en appartement à Paris, ça serait la même chose avec la pétanque.
Oui,
vous jouez à la pétanque dans le couloir,
ouais,
et là,
idée,
ça peut être vraiment très sympa pour les voisins du dessous.
Je savais pas que j'allais vous en parler, parce que je comptais le garder pour la semaine prochaine, mais figurez-vous qu'il vient de se créer des parties de pétanque, des mini-pétanques, en fait, pour mettre sur la table, sur une table à manger, pour pouvoir continuer à jouer, je vous assure, à la pétanque, mais c'est du mini-pétanque.
J'ai l'impression que ce confinement est en train de cramer nos neurones.
Ça va être bien quand ces habitudes-là seront prises, vraiment bien prises, et puis que le déconfinement arrivera, ça donnera des repas de famille intéressants. Belle maman, reste au bout de la table, je vais pointer ou tirer, je ne sais pas encore. Je vois bien le truc, ouais, ça va être chouette.
Merci beaucoup Stéphane Place pour ce rayon de soleil, on ne va pas vous déranger plus longtemps car il me semble entendre quelque chose griller sur votre barbecue.
C'est des poulets fermiers qui, comme Mathieu, ont la cuisse ferme et du poil aux pattes.
Oh, belle région quand même que le sud-ouest.
Ah mais oui, elle est formidable cette région. C'est la plus belle. C'est la plus belle. En plus, avec les bandages derrière, là, franchement.
Ah là.
J'embrasse ma sœur Laurence qui vit pas très loin de chez vous.
Europe 1.
C'était le moment qu'Eva redoutait le plus. Le quiz de Culture G qui l'opposait à l'invité et dont le thème était toujours choisi pour avantager outrageusement cet invité.
C'est bien
que souvent, elle
oui.
me disait en le découvrant.
Me demande des fois si t'as un cœur.
Voilà.
Vous connaissez la réponse maintenant.
Non.
Le meilleur du quiz. À suivre.
Europe 1.
16h, 18h.
L'équipée sauvage.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'heure du mea culpa a sonné pour l'affreux Jojo que je suis. Non, Eva Rock n'est pas cette gourgandine et cervelée que j'aime à dépeindre. Non, Eva n'est pas un culte. Et si elle perdait souvent contre l'invité sur notre test de Culture G, c'est que le quiz était truqué en faveur de l'invité, bien sûr. Non, le vrai défaut d'Eva, c'est la radinerie. Comme l'a très bien analysé notre invité d'hier, Mel Rabedia. Il va falloir s'abonner à Amazon Prime. Eva, ça coûte combien ?
Oui, mais alors si je puis me permettre, c'est gratuit le premier mois, voilà.
Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire.
Elle est crevarde comme moi, j'adore.
Oui, c'est une pince. En revanche, c'est une femme éminemment cultivée, comme nous allons le vérifier.
Voilà, écoutons
le meilleur de vos réponses dans le quiz. Un quiz toujours astucieusement pensé et surtout présenté de manière très claire, comme avec Clara Luciani. Le principe est simple, je vous fais écouter des chansons d'illustres chanteuses françaises, mais je vais faire exploser une grenade qui va détruire les mots, il va falloir retrouver.
J'ai pas compris. Hein.
Bon, je sens qu'on va tout reprendre à zéro aujourd'hui. Philippe Besson, vous voyez ce que c'est, un vrai faux ?
Oui.
Parfait, alors on est bien, voici un quiz sur les titres de romans, je vous en livre quelques-uns, à vous de me dire s'ils sont authentiques ou non. Vous jouez contre Eva Rock, c'est parti. Philippe Besson, voici le titre que je vous donne, « Et si les femmes pouvaient parler ?» Vrai ou faux titre de
livre ? Je pense que c'est faux.
Oh, vous avez raison.
Quand je le dis vrai, moi.
C'est faux. Oui, ben comme ça. Heureusement, la question ne vous était pas destinée. Là, donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied d'entrée. Et Baroque.
Oui.
Poème de terre.
C'est nul comme titre, on est d'accord. Hein.
Écoutez, imaginez qu'il existe.
Bah oui, bah on va dire qu'il existe.
Il existe.
Oui,
vous
oui.
êtes sûr, quelqu'un s'est dit un jeu de mots, poème de terre.
Bah c'est débile.
Il s'est dit on va
mais...
le publier. Il a trouvé un éditeur.
Oui,
il a trouvé un éditeur. Vrai titre. Le livre est de Olivier Douzou, sorti en 2012 et visiblement Nicolas Caro l'a lu.
Non, je l'ai pas lu, mais le titre me parlait. Je pense pas que ce soit un jeu de mots en fait. Je pense que le type a voulu parler de la terre et il s'est même pas rendu compte que ça faisait pomme de terre.
Mais oui, mais il écrit comme une patate,
je sais pas, c'est sûr.
Oh non, le pauvre Philippe Besson.
Vous voyez le mal partout.
Philippe Besson, attention. Le titre est le suivant. Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables ? Vrai ou faux titre de livre ?
Mon Dieu.
Il va regretter d'être venu, Philippe Besson.
J'espère que ça n'existe pas.
Vous l'espérez, oui. Pour la littérature,
oui,
au sens
large. Oui, c'est ça.
Mais pauvre littérature. C'est un vrai livre. Nicolas Carreau.
C'est un vrai livre.
C'est un vrai
livre. C'est une référence à Philippe K. Dick, oui. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques.
Et donc, finalement, c'est un très bon livre, peut-être.
Ça, je ne l'ai pas lu, mais...
Eva Rock.
Oui.
Ma grand-mère m'a mordu. Vrai ou faux livre?
Non, je dirais un faux livre.
Faux livre. C'est-à-dire, oui, que là, quelqu'un en régie qui prépare, ouais, ce quiz aurait pensé.
Oui, parce qu'il y a un livre genre pousse pas ma grand-mère dans les orties, là, tout
non.
ça.
Eh ben, vous avez faux. C'est un vrai livre écrit par Audren en 2013. Le pitch, une grand-mère voulait regarder les chiffres et les lettres, mais Marcus voulait finir son film. Elle l'a mordu pour récupérer la télécommande. Et oui, ça, c'est un pitch.
Ça, c'est un pitch. Ça,
ah,
c'est
vous, Philippe Besson, qui avez fait beaucoup de scénarios,
oui,
vous savez reconnaître les bons pitchs.
Ah, oui,
et là,
tout de suite, on se dit, on voit le film, la saga derrière.
Tout de suite, on contacte Netflix pour une production. Philippe Besson, gérer un cabinet dentaire, la méthode Gengis Khan.
Non, ça n'existe pas, c'est sûr.
Ça existe.
Ah non.
Un vrai livre écrit par Michael R. Young en 2010. Enfin, Eva Rock,
oui.
Le frima des raviolis.
Oui.
Et non, c'est parfait, comme ça permet à Philippe Besson de remporter le quiz. Comme tous les jours, la tradition est respectée. Bravo Philippe Besson. Philippe, en 2017, avec Arrête avec tes mensonges, vous racontiez votre première histoire d'amour. Vous découvriez l'autofiction, une révélation, mais qui débouche aussi paradoxalement sur un passage à vide. Vous dites, je me disais, c'est fini, je ne pourrais plus jamais écrire un roman. Quelle autre histoire pourrais-je raconter après ça? Et je n'ai pas écrit un mot pendant 6 mois, dites-vous. Qu'est-ce qui vous a relancé finalement?
Alors bizarrement, c'est de me lancer dans cette espèce d'aventure très étrange qui s'est appelée la campagne présidentielle, dans laquelle je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. Et
comment vous êtes arrivé là? Vous
étiez Emmanuel Macron.
J'ai même pas compris. Vous étiez ami avec Brigitte Macron.
Je connaissais Emmanuel et Brigitte Macron depuis quelques années. Et puis un jour, donc Emmanuel Macron me dit je vais me lancer dans la campagne présidentielle. Donc moi j'éclate de rire en me disant tout ça est une blague. C'est bien une caméra cachée. Et il me dit si c'est très sérieux et je pense que je vais gagner. Donc là je dis là ça devient vraiment
drôle. Où est la caméra?
Et du coup il me dit est-ce que tu veux venir dans l'aventure? Donc ça me paraissait tellement simple. Que je dis allons-y. Moi, dès qu'on propose un truc inédit et qui est un peu hors de l'ordinaire, ça m'intéresse.
Donc vous pensiez en fait chroniquer un truc
crash,
très flop,
oui,
quoi.
Un crash, oui. Mais d'ailleurs, je lui avais dit c'est un peu terrible parce que je vais écrire et le livre ne sera pas publié parce qu'on écrit sur les gagnants, on n'écrit jamais sur les perdants. Bon, et puis finalement, le livre est sorti parce qu'il a gagné. Mais je me suis lancé là-dedans et en fait, c'est ce livre-là qui m'a permis d'être capable d'être à nouveau devant un clavier et de mettre un mot après l'autre. Vraiment, je vous jure,
vous
c'est comme une espèce de rééducation. J'étais incapable d'écrire, vraiment. Donc c'était une rééducation grâce à cette histoire qui en plus avait l'avantage d'être dans la réalité, mais totalement romanesque pour moi, parce que d'abord la politique n'était pas mon domaine, et puis parce que je pensais vraiment que ça ne pouvait pas arriver. Donc ça m'intéressait d'écrire un réel improbable, et c'est comme ça que je suis revenu à l'écriture. Donc c'est vraiment une thérapie, oui, ou une je sais pas quoi, un truc comme ça.
Au sujet de ce livre, je devrais un personnage de roman, j'aimerais vous offrir une contradiction que je ne peux pas vous offrir, parce que vous aviez été critiqué à l'époque de la sortie de ce livre sur le fait qu'il y avait une connivence avec Emmanuel Macron et que vous, mais en même temps vous étiez son ami,
enfin, oui, c'est ça.
Vous écriviez pas en journaliste.
Absolument, moi je suis pas journaliste du tout, et en plus j'assumais d'emblée cette subjectivité dans le livre, c'est-à-dire je posais le décor dès le départ, donc j'ai pas trompé qui que ce soit, j'ai dit je le connaissais avant et j'expliquais justement que je voulais pas faire un ouvrage politique mais quelque chose qui racontait une épiphanie, un type qui s'invente un destin et qui fait l'histoire, quoi qu'on pense de lui, il a fait l'histoire, voilà.
Europe 1.
Vous pensiez être un bon père, une mère parfaite. 31 jours de confinement plus tard, vous devez l'admettre, vous êtes un peu loin du compte. Dans les premiers temps, la sortie au parc était sacrée, vous superviseiez votre enfant avec beaucoup d'attention. À présent...
Léonard, Gaspard, Edouard, bon, je sais pas comment tu t'appelles, tu restes là s'il te plaît. Ok l'enfant? Sinon je t'attache.
Miam.
Quoi, t'as faim?
Oui.
Ah non, mais j'ai pas de goûter. Bah, mange du sable, t'adores ça.
Franchement, au point où vous en êtes, vous fatiguez plus à l'emmener au parc, mettez-le directement devant la télé. Mais attention, hein, pas devant n'importe quoi, on n'est pas des monstres non plus. Eva Rock vous guide, juste après Fontez la basse, Rescue Me sur Europe. You Me, c'était Fonté la Basse sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Parents de France et de Navarre, je compatis. Moi-même, à la tête d'une famille nombreuse de un enfant, je partage votre désarroi devant leur caractère souvent irascible, voire insolent, qui nous oblige à mettre entre parenthèses, durant le confinement en tout cas, la formidable méthode Dolto, pour lui préférer la méthode Cruchot.
J'obéis aux ordres. Oui, chef. Je rentrerai dans les ronces.
Oui, chef.
Je plongerai de 30 mètres.
Oui, chef.
Je suis le droit à la justice.
Oui, chef.
Oui, chef.
Oui, la discipline, c'est ce qu'il leur faut. Mais parfois, ça ne suffit pas. Dans la carotte et le bâton, il ne faut jamais oublier la carotte. Et en matière, Eva est une connaisseuse, pas vrai?
Mais bien sûr, on a parlé déjà tout à l'heure de la carotte. On va continuer. Une spéciale art aujourd'hui pour les enfants et pour les parents aussi un petit peu. Hein. On commence avec un dessin animé que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Max et Maestro, qui est destiné aux petits à partir de 6 ans. Alors Max est un petit garçon de 11 ans. Son truc, lui, c'est le rap. Il adore ça. Mais sa vie, elle va être bouleversée par une rencontre. La rencontre avec Maestro, Daniel Barenboim, immense chef d'orchestre, qui va lui faire découvrir la musique classique. Et ça va être un choc pour le jeune homme qui va tomber amoureux de cette musique, qui va se mettre à apprendre à jouer du piano grâce au maestro, qui lui est incollable évidemment sur les compositeurs. Petite leçon de musique.
Mozart, quel génie! Probablement le plus grand des compositeurs. Il s'est essayé à tout.
Même au rap?
Mozart est né 200 ans avant le rap. Il s'est donc contenté de révolutionner la musique classique en composant des œuvres merveilleuses dès l'âge de 6 ans.
Vraiment? Pas ça quand même!
Non, ce morceau date des dernières années. À 6 ans, il composait ce menuet.
Il a composé ce morceau à 6 ans?
Alors je vous rassure, tout l'épisode n'est pas centré sur Mozart, hein, mais le maestro égrène au fil des séquences des petites infos comme ça. Pour le reste, il y a toujours une histoire autour de Max et de ses copains. J'adore ce dessin animé qui a bénéficié de l'apport de deux hommes exceptionnels, le grand chef Daniel Barenboim en personne, qui gère en fait l'aspect musical du programme et qui joue ou dirige les œuvres que vous venez d'entendre par exemple. Et puis quant aux musiques urbaines qui sont également très présentes dans ce dessin animé, elles sont signées du leader du groupe IAM, qui n'est autre, Mathieu Noël, que...
Joey Starr, bien sûr.
Bien sûr, Akhenaton. On l'embrasse très très fort.
Ah oui, merde,
voilà, non, c'est Akhenaton qui a signé toutes les musiques urbaines de Max et Maestro. C'est à voir sur France.tv. Ne vous privez pas de cette initiation à la musique. C'est vraiment formidable.
Et pour les plus grands, Eva?
Alors là, je m'adresse aux ados, alors les plus grands en âge, hein, pas en taille, et aux parents, avec une série dont je suis férue et qui est à voir sur arte.tv, qui est intitulée « Amusez-vous, amusez-moi ». Je vous en avais déjà parlé, le terme de musée s'écrit M-U-S-E. Voilà, ce sont des pastilles de 3 minutes pour raconter l'histoire d'un tableau. Mais alors attention, hein, absolument pas de façon académique, non. Il faut que vous imaginiez que le tableau prenne vie tout d'un coup et que les personnages s'animent. Par exemple, la jeune fille à la perle, l'œuvre de Vermeer, depuis son tableau, elle va s'animer, elle est interrogée par un inspecteur de police et voilà ce qu'elle dit.
Ton nom?
Ça dépend.
Comment ça, ça dépend?
Il y en a qui m'appellent la jeune fille à la perle, d'autres la Joconde du Nord. Un moment, on m'a même appelée la jeune fille au turban.
C'est ça, et ton âge?
Un peu plus de 350 ans.
Quoi? Tu me prends pour un con?
Je vous jure, c'est vrai. Je suis née en 1665 aux Pays-Bas. Le truc, c'est juste que...
Que quoi?
En 1994, j'ai subi un petit lifting. On m'a retiré des couches de vernis. Alors forcément, je fais un peu plus jeune que mon âge.
Alors, c'est extrêmement bien écrit. Il faut pouvoir imaginer quand même ces scénettes alors, au cœur des œuvres de Vinci, Manet, Renoir, mais aussi Warhol et Hopper. Deux, c'est extrêmement bien réalisé. Les actrices et les acteurs semblent vraiment être les sosies peints par les grands maîtres. Hein, et les décors reconstitués sont également bluffants. Et puis trois, c'est extrêmement original et intelligent. Chaque séquence apporte à la fois son lot d'informations sur l'œuvre et son auteur et sa dose d'humour. C'est un programme décalé qui mérite vraiment d'être découvert sur le site d'Arte. Je vous conseille notamment les trois épisodes consacrés à la Joconde et ceux autour de l'œuvre d'Edouard Hopper, Summer Evening, qui sont très très réussis. Ça s'appelle Amusez-vous, amusez-moi, avec un générique qui est chanté par Joey Starr. Voilà.
Moi, j'ajouterais dans ce que vous avez cité la pastille consacrée à l'origine du monde où la fille se relève et dit:
est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 5 lettres à coca, ça fait chatte?
Sauf qu'il n'y a pas l'origine du monde, c'est pas grave.
Comme quoi, l'origine du monde a bien des secrets à nous
N'importe
révéler.
N'importe quoi.
Europe 1.
Une première page va se tourner dans l'équipe sauvage, plus qu'une émission, une boussole dans cette période trouble. Cette pandémie qui nous donne l'impression que tout fout le camp, que le monde s'écroule et où nous allons chaque jour de surprise en surprise comme Jean-Pierre Marielle dans Comment réussir quand on est con et pleurnichard, ce qui n'est pas peu dit.
J'ai couru chez toi, plus d'immeubles. La concierge est en observation, elle croit qu'elle a 3 ans, qu'on est en 1916 et que la grosse Bertha vient de bombarder Paris.
Et on ne sait plus où on habite, aujourd'hui tout fout le camp peut-être, mais pas nous.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.